7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et ce matin, il est question de The Monster. The Monster, c'est le nom de ces multiples incendies qui ravagent actuellement l'Australie et semblent très difficile à arrêter. Quel lien entretiennent-ils ces Australiens à l'immense nature qui les entoure? Une prise de conscience politique est-elle en train de s'opérer? Et les méga-feux peuvent-ils nous aider à repenser notre vision du monde et à surmonter la crise climatique? Nous sommes en compagnie de Fabrice Argounès. Bonjour.
Bonjour.
Fabrice Argounès, vous êtes géographe, politiste, enseignant-chercheur à l'Université de Rouen. Au téléphone, nous sommes en compagnie de Charlotte Epstein. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes à Sydney, vous êtes professeur associé à l'Université de Sydney, également chercheuse invitée aux séries Sciences Po à Paris. Fabrice Argounès, tout d'abord pour replacer ce contexte, celui des feux, The Monster, comme on les appelle, dans le rapport que l'Australie entretient avec sa nature, ce territoire si particulier, vous qui êtes géographe, si vous deviez nous le présenter en quelques mots.
Alors, en quelques mots, c'est évidemment un territoire immense. Hein. C'est un des premiers pays pour la superficie. Hein. C'est plus de 7 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire à comparer, toujours pareil, à nos 550 000 kilomètres carrés de la France métropolitaine. Et c'est un immense territoire qui est uni le continent. C'est la continentalité de l'Océanie, quelle que soit la vision qu'on a sur l'invention des continents. Mais c'est la continentalité de l'Océanie. Ce sont des distances exceptionnelles. Pour donner une idée, entre Sydney et Perth, qui est la grande ville de l'ouest australien, on a une distance qui est comparable à celle entre Paris et Jérusalem. Donc évidemment, c'est cette dimension continentale qui est extrêmement forte. C'est un pays qui est situé entre océan Indien et océan Pacifique, et c'est un beau symbole, en ce moment notamment, de notre conscience planétaire, puisque nous, on a une perception vue de Paris ou de la métropole française d'un pays à des milliers de kilomètres, où il faut près de 24 heures pour y aller en avion. Et évidemment, on a également, malgré tout, cette dimension d'une proximité, symbolique, iconique, hein, à la fois de la connaissance de l'Australie par le grand public. C'est l'exemple typique de l'Opéra de Sydney, qui est une des constructions architecturales majeures qu'on voit toujours dans les films catastrophes. Vous savez, quand on détruit la planète, il y a toujours l'Opéra de Sydney, ou d'une faune.
Ça ressemble à quoi, l'Opéra de Sydney?
L'Opéra de Sydney, c'est ces grandes vagues blanches, vous savez, qui sont tournées vers la baie de Sydney, et une des grandes œuvres architecturales du XXe siècle. Mais c'est pareil pour la faune. Les kangourous, les koalas, on en parle beaucoup en ce moment, sont iconiques, à la fois symboles de l'Australie, et font partie, comme l'ours blanc en milieu polaire, comme l'éléphant ou le rhinocéros dans certains coins d'Afrique, de cette faune symbolique des changements climatiques et de ce qu'on a fait, et de la nature affectée, évidemment.
Et oui, parce qu'on entend du coup des choses difficiles à imaginer. J'ai entendu par exemple qu'il y avait eu l'équivalent de la superficie de l'Indiana, l'État américain ravagé par les flammes, ce qui paraît très difficile effectivement à réaliser. Charlotte Epstein, vous êtes à Sydney actuellement, c'est ça?
Tout à fait, au milieu de la catastrophe.
Justement, comment ça se passe très concrètement quand vous sortez dans la rue? Qu'est-ce qu'il y a de changé à Sydney à la suite donc de ces incendies?
Oui, alors sachant que je suis donc en pleine ville, et donc en pleine ville, c'est là où on risque moins, hein, ironiquement pour une fois, sachant aussi que les feux durent quand même depuis septembre, et que depuis 13 ans que je vis ici, si vous voulez, quand on vit à Sydney, de temps en temps, il y a ce qui s'appelle des control burns, qui font partie de la gestion par le feu, d'une pratique très très ancienne, d'ailleurs utilisée par les aborigènes. Et donc les control burns sont justement censés empêcher ce genre de situation. Et je me souviens d'être sortie une première fois, donc en septembre, de chez moi, en me disant, tiens, ça sent brûler, ça doit être un control burn. Le problème, c'est que si vous voulez, à partir du début décembre, là, c'était plus des control burns, c'est-à-dire qu'on regardait par la fenêtre et on voyait carrément un écran de fumée. Je vous dis pas des blagues. Uh-huh. On sortait dans la rue, on avait l'impression de littéralement rentrer dans un feu de camp, et on en est à être devenu complètement obsédé des qualités de l'air et à vivre les fenêtres fermées.
Les fenêtres fermées. Ah oui.
Voilà.
Effectivement. Oui. Et ces feux aujourd'hui, ils sont à combien de kilomètres de Sydney, Charlotte Epstein?
Alors, ils sont relativement moins, mais c'est là où, en plus des caractéristiques que qu'on vient d'évoquer, il y a aussi des grands vents, si vous voulez. Donc les feux sont probablement, d'ailleurs pas si loin que ça, d'ailleurs, parce que dans la banlieue de Sydney avait été quasiment affectée la semaine dernière. Sinon, c'est peut-être à 50 ou 100 kilomètres d'ici. Mais très vite, les vents vous les amènent vers la ville. Et surtout, moi, je crois que ce qui effectivement représente un tournant, c'est que c'est la première fois que les habitants de la plus grande ville ressentent ça comme une vraie menace, alors qu'on est dans la partie la plus sûre, c'est-à-dire en ville.
Fabrice Argoudès, donc on voit qu'on a affaire à un phénomène tout à fait inédit. Et vous qui êtes géographe, comment peut-on l'interpréter? Est-ce que là, on a affaire à quelque chose de différent de ces feux qui sont des feux traditionnels, puisque les feux de forêt, c'est un événement qui peut être naturel, alors là, qui est renforcé dans les circonstances que l'on connaît. Comment l'interprétez-vous?
Alors, c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer avec l'exemple de Sydney. C'est-à-dire, concrètement, il y a des éléments historiques qui font que l'Australie a connu au 19e ou 20e siècle énormément d'événements, 1851 ou plus récemment 1983 ou 2009, des grands incendies qui ont touché des parts du territoire. La particularité de cette année, tout simplement, donc l'été austral, puisque vous savez, on est inversé, hein, l'été austral 2019-2020, c'est évidemment la multiplication de ces feux et leur zone géographique qui touche notamment les deux États les plus peuplés et le cœur démographique et économique du pays, que sont la Nouvelle-Galles du Sud, où est Sydney, et le Victoria, où est située la ville de Melbourne. Mm-hmm. Et les feux touchent tous les territoires australiens, mais c'est vrai que c'est notamment ces scènes que vous avez sûrement vues sur les réseaux sociaux, ces images, hein, où l'on voit exactement, comme qu'on a eu la description il y a deux minutes, c'est-à-dire les flammes et au moins la fumée qui survole le ciel de Sydney et qui va parfois jusqu'à arriver jusqu'à Nouvelle-Zélande, etc., avec les vents. Et donc, c'est plusieurs facteurs. C'est une sécheresse exceptionnelle. Ce sont des vents extrêmement violents à des dizaines de kilomètres heure. Et c'est évidemment une situation d'incendie. Vous savez, c'est pas un incendie global. C'est le monster, mais c'est pas un incendie global. C'est ces 300 à 500 incendies suivant les jours, etc., qui sont présents sur l'ensemble du territoire.
Et alors, Charlotte Epstein, tout cela intervient dans un contexte politique particulier. Le Premier ministre australien est un homme que l'on pourrait qualifier de climato-sceptique. En tout cas, c'est quelqu'un qui a laissé l'Australie avoir un rapport extrêmement étroit au charbon. Scott Morrison est aujourd'hui critiqué pour sa gestion de la crise. Comment est-il perçu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire selon les Australiens?
Alors, il aurait d'abord pu commencer par ne pas partir en catimini en vacances à Hawaï, comme vous savez. Donc ça, c'était déjà pas un bon début, si vous voulez. Ça commençait pas bien, alors que le nombre de morts, carrément, pas simplement de maisons détruites, mais de morts, augmentait. Donc ça, déjà, c'est pas bon pour un leader. Mais surtout, effectivement, le contexte plus global, c'est que c'est un homme qui a été réélu récemment, en fait. Et ça, c'était par surprise. Hein. Lui, il appelle ça l'élection miracle, sa réélection, parce qu'il n'était pas censé être réélu. Et surtout, il a été réélu après un changement à l'intérieur du parti libéral, c'est-à-dire de la droite, où il a quand même remplacé un autre, Malcolm Turnbull, l'ancien Premier ministre, qui lui, pour le coup, a été viré par son propre parti autour d'une politique énergétique qui était pas assez, mais qui prenait quand même en compte le changement climatique. Mm-hmm. Donc, c'est vous dire que toute son assise politique, elle est effectivement construite sur le déni total du lien de l'existence même du changement climatique, sachant que, comme vous le savez, pendant ce temps-là, c'est-à-dire que pendant qu'il y avait les feux, l'Australie a été quand même un des pays les plus obfuscateurs à Madrid, en ayant empêché un accord qui allait beaucoup plus loin, qui aurait dû aller beaucoup plus loin. L'Australie faisait ça, s'est comporté comme ça sur la scène internationale, pendant que les feux se déroulaient chez eux.
Mais alors, est-ce que là, il a entamé une sorte d'autocritique?
Oui, alors bonne question. Ce qui est sûr, c'est que en fait, il a été très très rattrapé par les événements, donc il est revenu un peu la queue entre les jambes de Hawaï. Et pour la première fois, les journaux australiens disent qu'il a perdu sa touche de Midas et qu'il a surtout perdu son contact avec les Australiens. Et ça, c'était, il y a eu un moment très symbolique pour ça, où il a commencé à essayer d'aller rendre visite aux gens sur place qui perdaient leur maison. Et quand il a une jeune femme enceinte, il lui a tendu la main pour qu'elle lui serre. Elle a pas voulu. Il lui a attrapé la main malgré elle. Et surtout, un des pompiers a carrément refusé de lui serrer la main. Donc, c'est vous dire que c'est très symbolique de cette rupture qu'il a avec son propre peuple.
Et oui,
alors
parce
là,
que...
il est en... oui.
Ce qui est très étrange, c'est que on se dit que ce pays continent a à sa tête un homme qui apparemment n'a pas fait de l'écologie son cheval de bataille, ce qui veut dire que l'écologie, ça n'était pas jusqu'ici très important en Australie.
Non seulement c'était pas très important, mais ils ont commencé par sortir toutes les vieilles stratégies caduques du Parti libéral. Ils ont commencé par carrément accuser les écolos, comme ils disent. Hein. C'est la faute aux écolos.
Ah oui.
Une chose assez ce qui est quand même intéressant dans la mesure où les Verts sont au pouvoir nulle part en Australie. Mm-hmm. Donc je sais pas comment ça pourrait être leur faute. Mais donc c'est sûr que je vous raconte ça pour vous expliquer à quel point son positionnement a été extrême. Et ce qui est très intéressant de voir en ce moment, c'est à quel point il est en train de se passer quelque chose. Alors, on ne sait pas, sa stratégie est certainement en train de changer. Donc la première chose qui a commencé à changer, c'est qu'il commence maintenant à dire que son gouvernement n'a jamais refusé le lien entre les feux et le changement climatique. Alors ça, c'est évidemment faux, et tous les journalistes lui rappellent tout le temps. Voilà. Mais au moins, il commence à dire qu'il ne l'a jamais, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il fait semblant de ne pas avoir changé sa ligne, mais en fait, il change son positionnement, en tout cas dans le langage, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je vois bien Fabrice Argounès, une réaction.
Oui, mais c'est exactement l'enjeu principal. C'est à la fois l'aspect iconique, je vais réutiliser le terme, du Premier ministre qui a tous les marqueurs de la droite australienne symbolique, puisque avant les enjeux environnementaux, il avait été notamment en 2013 au retour de la coalition. La coalition, c'est les libéraux et les nationaux qui sont la droite australienne traditionnelle et qui avait été le ministre chargé de l'immigration, qui avait fait les lois les plus l'opération de protection des frontières, les lois les plus dures vis-à-vis des réfugiés. Et en 2016, à nouveau, c'était le principal ministre contre la loi pour légalisant le mariage pour tous, le mariage pour les homosexuels, et évidemment, c'est alors que c'était la coalition de droite qu'il avait mis en place, hein, mais lui c'était le ministre à l'intérieur de la coalition qui était un des plus virulents. On l'a déjà dit, mais il est évangéliste pentecôtiste, hein, et je le dis parce que lui-même le présente, hein, et le met en valeur régulièrement. Et deuxième enjeu, c'est évidemment le rapport à l'environnement et le rapport à la causalité, parce que évidemment les feux ne viennent pas des mines de charbon. Mais c'est la question des enjeux globaux du changement, des changements climatiques, qui pose la question de la place de l'Australie et du rôle de l'Australie dans ces changements globaux. Et notamment, un élément très important, c'est le rôle des matières premières dans leur économie. Ça fait partie de leur histoire longue. Et donc, il y a un rapprochement à faire et qui a souvent été nié par le Parti libéral et notamment par Scott Morrison sur le lien entre les activités humaines, notamment les activités extrêmement polluantes australiennes. L'Australie, pour donner une idée, en empreinte climatique par habitant, c'est parmi les trois premiers au monde, avec par exemple l'Arabie Saoudite ou avec les Émirats Arabes Unis. Donc c'est une empreinte extrêmement...
Comment explique-t-on cela ?
Alors, tout simplement parce que le cœur de l'économie australienne, ce sont les exportations. Ça, c'est un aspect historique très ancien. Le pays, vous savez, colonie britannique de peuplement à partir de la fin du XVIIIe siècle, qui s'est développée à travers le lien impérial, d'être un pourvoyeur de matières premières, d'abord agricoles, pour le Royaume-Uni. C'est-à-dire, dans les années 30, les Britanniques prenaient leur petit-déjeuner avec du miel australien, des œufs australiens, déjà à l'époque, du blé australien, etc., sur leur toast. Et jusqu'aux années 50, 80% de l'exportation, qui est un élément très important de leur développement, ce sont des denrées agricoles. Depuis, il y a eu une évolution. Ce n'est plus l'Angleterre qui est son principal partenaire commercial. C'est devenu le Japon, puis aujourd'hui la Chine. Et l'Australie a une croissance exceptionnelle depuis une trentaine d'années qui repose essentiellement sur l'exportation. Mais je vais vous donner les cinq premiers produits d'exportation australienne. C'est très simple. Hein. C'est le charbon, le fer, le gaz, l'or et l'aluminium. Il n'y a pas plus symbolique hein, de cet exemple hein, de pays exportateurs de matières premières.
Donc, Charlotte Epstein, on se demande finalement s'il est possible pour l'Australie de modifier les choses sans changer complètement le mode de vie australien aujourd'hui.
Oui, c'est une très bonne question. Mais je voudrais commencer par ajouter deux petits faits à ce qui vient d'être dit, à savoir que effectivement l'empreinte de l'Australie, c'est le 13e pollueur au monde, hein, avec seulement 25 millions de personnes, et c'est surtout le premier émetteur de gaz à effet de serre des pays de l'OCDE. Je sens que l'Arabie Saoudite ne fait pas partie des pays de l'OCDE. Et donc c'est le premier. Vous voyez ça, premier avant les États-Unis, maintenant, ça a dépassé les États-Unis. Le premier émetteur est le plus affecté. Donc c'est là où je pense aussi que l'Australie pourrait prendre une fonction totalement symbolique dans cette évolution-là. Et donc pour répondre à votre question, si vous voulez, c'est là où il y a vraiment des facteurs qui deviennent intéressants parce que en même temps la division entre on va dire la ville et la campagne commence à jouer vraiment son rôle, c'est-à-dire que effectivement la politique a été tournée vers l'industrie minière, surtout l'industrie minière, mais l'industrie minière elle est au nord, elle est loin des yeux, ce qui s'y passe on voit pas trop ce qui s'y passe, et là si vous voulez c'est quand même comme l'a été dit la les parties les plus peuplées qui sont affectées, et de là commence à être formulée une demande de vrai changement. Et puis il y a un autre facteur aussi qui a à voir avec pour le coup les ressources premières, c'est qu'il commence à y avoir aussi une scission entre les miniers et pour le coup les agriculteurs, les fermiers, qui est aussi une des grandes ressources premières de l'Australie, parce que les fermiers ont bien compris, je veux dire, cette sécheresse et maintenant carrément les animaux, je veux dire, des scènes de destruction totale des vaches, des moutons qu'on retrouve morts sur les fermes, et donc c'est, si vous voulez, les fermiers ont bien compris qu'ils sont les premiers concernés par le changement climatique, et donc même à l'intérieur du secteur primaire, si vous voulez, c'est plus du tout unanime. C'est pour ça que moi je pense que là, pour le coup, moi qui suis pas une optimiste, je pense que ça devient intéressant en ce moment.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Charlotte Epstein de nous avoir présenté la situation politique australienne. Vous êtes professeur associé à l'Université de Sydney et chercheuse invitée aux séries Sciences Po, et vous nous parliez de Sydney. Fabrice Argounès, on se retrouve dans quelques instants. Vous avez notamment publié un dictionnaire critique de l'Anthropocène. On va voir en fait plus généralement ce que ces feux de forêt modifient dans notre rapport à la nature, la manière dont ceux-ci sont en train de détruire une partie de la vie animale, également australienne. Et vous serez rejoint par Joëlle Zask, elle est philosophe et elle a publié un livre intitulé « Quand la forêt brûle ». 8h sur France Culture, très bon réveil à tous.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
L'ère des méga-feux en Australie, c'est à la une de la presse, de vos journaux par exemple. À la une du Figaro ce matin, la catastrophe sans fin, une trentaine de morts, 100 000 km² partis en fumée, des centaines de millions d'animaux disparus. Les autorités australiennes sont dépassées par des incendies que rien n'arrête depuis 3 mois. Mais j'ai envie de dire aussi, notre entendement est dépassé par ces feux. On parle effectivement de chiffres qui sont absolument astronomiques. Et puis toujours, si je vous résume ce que l'on peut lire dans les journaux, l'éditorial d'Étienne de Montetti, lequel dit « Le dérèglement n'est plus un sujet de colloque, mais une réalité ». Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un géographe et politiste, Fabrice Argounès. Vous avez notamment publié un dictionnaire critique de l'Anthropocène. Et puis nous sommes en liaison avec Joëlle Zask. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie à l'université Aix-Marseille. Et alors, vous avez publié un ouvrage, « Quand la forêt brûle », le titre est suffisamment parlant, aux éditions Premier Parallèle, avec tout d'abord une première question, Joëlle Zask. Vous qui êtes philosophe, que signifie « penser les feux de forêt » en philosophe ?
Eh bien, d'abord, c'est faire un travail vers le réel, c'est-à-dire l'objectiver. Et de fait, il m'a semblé que ces méga-feux dont j'ai été indirectement le témoin et que j'ai constaté dans la presse étaient d'un autre ordre que ceux dont on était, ce à quoi on est habitué, notamment des feux saisonniers, des feux naturels ou des feux d'entretien. Et je crois que la philosophie a cette tâche aussi de penser le réel, d'aller vers le réel. Et je me suis beaucoup intéressée au feu, d'une part parce que il me semble signifier à l'échelle planétaire, le degré auquel notre relation à la nature est complètement détraquée, mais également parce qu'en en parlant, je me suis permis d'espérer que cela aurait un effet en termes de formation, en termes d'avertissement sur l'opinion publique mondiale pour juguler la crise climatique ou en tout cas pour faire quelque chose en vue de sa décélération.
Est-ce à dire que ces méga-feux peuvent constituer pour nous qui observons cette catastrophe un symptôme, le symptôme de quelque chose?
Ah oui, c'est vraiment de cette façon que je les ai abordés. Et les feux en Australie vont peut-être même au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire que là, on voit que la saison du feu dure toute l'année. C'est-à-dire que les feux se déplacent d'un endroit à l'autre de la planète et que ça ne s'arrête jamais. Si bien que effectivement, si on veut parler de pyrocène, on y est en quelque sorte autorisé.
Dans pyrocène, alors il faut dire ce que ça signifie.
Pyrocène, c'est-à-dire qu'en fait, les feux seraient des bons compétiteurs dans les développements de gaz à effet de serre et dépasseraient même l'activité industrielle tout entière. C'est-à-dire que les feux contribueraient au changement climatique. Par exemple, les feux en Australie aujourd'hui génèrent leur propre climat, attisent des vents infernales et en même temps dégagent toutes sortes de cendres et de gaz qui vont jusqu'en Nouvelle-Zélande et par ailleurs déclenchent aussi un phénomène de foudre. Donc on voit comment le feu, d'une certaine façon, redevient naturel. Il était anthropique et là, il se retourne complètement contre nous. Et la situation d'urgence, elle est extrême. Je pense que la dimension pyrocénique de l'anthropocène, c'est-à-dire justement de l'idée que le climat est entre les mains des hommes et de leurs activités et qu'il est détraqué par les activités humaines, quelque chose qui doit être pensé aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que le koala joue un rôle important, c'est-à-dire que en fait, en sauvant des koalas, d'une certaine façon, les gens gardent quelque chose de leur pouvoir d'agir, peut-être même de leur désir de toute puissance. Et en même temps, on pourrait dire que, au lieu d'être victimes, ils sont sauveurs, donc qu'ils font quelque chose pour la nature. Et donc, au lieu d'être, ils ne sont ni victimes ni entièrement coupables. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue entre le koala et l'homme, tel que ça circule sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, je crois qu'on a Il faudrait qu'on fasse pour notre climat ce qu'on fait pour les koalas aujourd'hui et qu'on soit ému par le climat et par l'ensemble de nos activités qui conduisent au méga-feu comme on l'est par ces petits koalas assoiffés qui se réfugient dans les bras de l'homme pour y trouver à la fois de la compagnie et un sauveur.
On s'interroge également, Fabrice Argounès, vous qui êtes géographe, sur l'origine de ces feux. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait entre 300 et 500 feux. Donc, ça n'est pas un seul feu, même si on l'appelle The Monster, parce que ce phénomène a un caractère si massif qu'il mérite un tel surnom. Comment explique-t-on la multiplication de ces feux? D'où viennent-ils, tout simplement?
Alors, ils viennent d'une situation qui n'est pas neuve, hein, qui a commencé depuis plusieurs années. C'est un état de sécheresse catastrophique, puisqu'il y a déjà eu des déclarations de catastrophe nationale pour des sécheresses, à la fois sur certains grands bassins hydrographiques. Le principal, c'est la Murray Darling, qui est le grand fleuve qui passe dans le sud-est de l'Australie, et sur tout simplement des températures extrêmement élevées. Hein. Vous avez sûrement vu, entre octobre 2019 et janvier de cette année, l'Australie a battu régulièrement des records de températures les plus chaudes, 40, 42, 43, etc., avec des pics à 49 degrés, là, en début janvier. Et donc, on a une situation avec, également, ça a été rappelé, les vents, hein, les vents violents, une situation qui fait que le bush, alors c'est pas exactement le cœur de l'Australie, vous savez, le cœur de l'Australie est désertique, hein, l'outback, mais le bush, c'est la partie, c'est d'où la proximité avec les grandes villes, c'est la partie où il y a le plus de verdure, le plus de forêts, par exemple les montagnes bleues, qui sont proches de Sydney, qui est un grand parc national, malheureusement, qui a une grande partie de ses hectares qui a disparu. Et c'est le lien entre à la fois le manque d'eau, la sécheresse, qui va attiser des feux extrêmement importants sur des zones proches des grandes villes australiennes.
Mais alors, on voit donc le contexte, le climat général qui permet donc à ces feux de se développer et de s'étendre, mais le fait initial, le fait générateur de ces feux, quel est-il ?
Ah mais c'est des feux de broussailles, c'est des feux liés soit à des arbres ou à de la flore qui va brûler. Mais c'est surtout justement c'est l'enjeu, c'est de changer de focale, de percevoir l'échelle.
Alors pardonnez-moi, ma question est extrêmement candide. Est-ce que c'est de la foudre? Est-ce que qu'est-ce qui fait qu'au début la forêt brûle? Par exemple à Yellowstone, un parc national américain, il y a eu un feu immense et on s'est rendu compte que le feu était naturel, c'est-à-dire qu'il y avait de la foudre, mais il y avait aussi eu peut-être des départs de feu criminels. Bref, comment explique-t-on ça en Australie?
Ah oui, en Australie, on a le même type de réflexion, c'est-à-dire concrètement, il y a eu certaines enquêtes pour vérifier que certains feux n'étaient pas des incendies criminels. Alors, il y a eu des cas de départ liés à l'homme, tout simplement le mégot qui est jeté par la fenêtre de la voiture, ou tout simplement des feux naturels. C'est exactement ce que vous dites. On a des exemples qui ont été cités, qui sont ceux liés à la foudre ou liés, en fait, à une température tellement chaude, l'air est tellement chaud que la moindre étincelle va faire partir un feu qui prend des dimensions hallucinantes. Mais c'est aussi la taille du territoire australien. On en parlait au tout début. C'est-à-dire concrètement, ces feux, on les a régulièrement en été en France, hein, mais c'est la dimension une question d'échelle. C'est la dimension du territoire australien qui rend ces feux extraordinaires. Et et là, c'est lié évidemment au changement climatique. Hein, c'est aussi cette saison des feux. Non seulement il y a une saison globale, ce qui a été rappelé, suivant l'endroit où on est sur la planète, il y a des feux tous les mois de l'année, mais il y a aussi une saison sèche australienne qui, en 20 ans, a gagné plusieurs mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de fin août à fin mars, on a potentiellement une saison sèche en Australie qui est une saison des incendies.
Ce qui est paradoxal, Joël Zask, vous qui êtes philosophe et qui avez publié un ouvrage intitulé « Quand la forêt brûle », c'est que la nature a besoin des feux.
Alors, elle n'a pas besoin de n'importe quel feu, et il y a feu et feu. Je crois que ça, c'est important à souligner. Alors, il est clair que le réchauffement climatique, l'allongement des périodes de sécheresse, l'augmentation des températures sont très, très favorables au déclenchement de feux hors normes. Mais ce qui est aussi intéressant à noter, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que sont aussi un ensemble de politiques ou d'habitudes de suppression des feux et en particulier d'interdiction des activités aborigènes ou autochtones ou paysannes, hein, suivant les endroits où on se trouve sur la planète, qui expliquent que les forêts ne sont plus entretenues. Et c'est ce rapport très dialogique et d'échange avec la nature ou avec la forêt qui a été perdu en cours de route, en même temps que, évidemment, ces suppressions ont conduit à des destructions culturelles très graves et aussi à des suppressions d'animaux. Donc, je crois que effectivement, la disparition, en quelque sorte, de nos pratiques d'habiter la forêt de manière à en prendre soin explique aussi ces méga-feux. Il y a plusieurs facteurs qui se combinent. Et je pense que toutes les activités industrielles, économiques qui génèrent des gaz à effet de serre plus, disons, un certain préservationnisme qui voudrait que l'homme se retire de la forêt et laisse la nature faire son travail toute seule sans rien y toucher, sont deux facteurs qui se combinent entre eux pour expliquer justement la situation actuelle. Et donc, il est vrai qu'il y avait des feux anthropiques, des feux humains d'origine humaine, mais qui étaient des feux d'entretien, des feux dirigés, de l'éco-buage, donc on a toutes sortes de termes, et qui se combinaient par ailleurs au pastoralisme. Aujourd'hui, les Californiens sont en train de louer des troupeaux de chèvres pour débroussailler leurs forêts. Et je crois qu'ils ont raison, c'est la seule chose qu'on puisse véritablement faire pour prévenir leur développement. Donc aujourd'hui, également en Australie, on fait appel à des rangers aborigènes. Ces gens ont 12 termes pour exprimer les feux, et ils savaient y faire avec les feux. Ils ont une science du feu, et c'est pas juste un savoir-faire, c'est véritablement une connaissance très fine en fonction de toutes sortes de variables. Et justement, on fait appel à eux dont on a véritablement détruit la culture. On fait quand même appel à eux aujourd'hui pour donner un coup de main, comprendre ce qui se passe, prévenir. Et là, on voit de plus en plus dans les articles spécialisés, la presse australienne, des aborigènes anciens plutôt qui prennent la parole pour dire voilà ce qu'il faut faire, on va vous aider, laissez-nous un espace pour le faire.
Ah oui, 12 termes dans la langue aborigène, c'est incroyable, Joël Zask. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut catégoriser les feux? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme taxinomie, comme manière de les classer?
Eh bien, il y a, des feux suivant la saison. Alors, en général, les feux dirigés sont des feux qui sont allumés pendant les saisons humides. Il y a aussi des feux rituels, des feux destinés aux kangourous, des feux destinés aux koalas, des feux destinés à, disons, la, par exemple, la production de la pomme de terre de brousse, etc., etc. Donc, en fait, il y a des techniques de feu, des anticipations de rapidité ou de vitesse de passage du feu et des destinations du feu qui sont très variables. Alors, après, il faudrait rentrer dans toutes sortes de détails et je crois que ça nous prendrait un petit peu de temps. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est justement qu'il y a une culture du feu. Culture du feu qui existe partout dans le monde, hein, d'ailleurs. Il y a une culture du feu en Corse. D'ailleurs, le terme de culture du feu est corse. Il y a une culture du feu, il y en avait une parmi les premières nations américaines ou canadiennes. Cette culture du feu existe aussi en Méditerranée. D'après Stephen Pine, en fait, les hommes, depuis en fait Homo erectus, depuis 1,6 million d'années, pratiquent le feu dirigé et ont contribué à façonner la planète, d'ailleurs. Et de ce fait, cette culture peut nous dire quelque chose aujourd'hui sur une juste relation à la nature, en tout cas une relation qui a été suffisamment durable pour maintenir un équilibre pendant environ 45 000 ans.
Fabrice Argounès.
Oui, mais c'est exactement les nouvelles figures qui émergent de ce type d'événement, de catastrophe. Hein. C'est à la fois d'un côté, et ça a été très bien dit, le retour sur les savoirs autochtones, entre guillemets, sur le rapport au feu des aborigènes, puisqu'il y a un des responsables de la sécurité de Nouvelle-Galles du Sud qui évoque justement la nécessité de réapprendre ces savoirs traditionnels. Et la deuxième figure qui émerge vraiment de manière très présente, très puissante dans les médias, c'est la figure du working class hero, c'est le pompier. C'est-à-dire les pompiers australiens qui sont au feu et qu'on a vu, hein, qui s'opposent évidemment à la figure de Scott Morrison, qui elle va être
le premier ministre,
le symbole de la classe politique, enfin d'une partie de la classe politique qui va être dans le déni des changements climatiques. Et face à ça, le pompier, souvent, vous savez, en France, on a par exemple les sapeurs-pompiers à Paris professionnels ou les marins-pompiers à Marseille, mais l'essentiel des pompiers français comme des pompiers australiens, ce sont pas des professionnels. Et là, on a une série de pompiers et on a des histoires personnelles qui sont celles à la fois du pompier qui combat, qui est le héros qui combat le feu et qui se retrouve dans une situation difficile à cause des changements de la politique sociale du gouvernement australien. Et on a des anecdotes tragiques, hein, qui racontent que certains pompiers sont rayés des listes des demandeurs d'emploi ou de certaines lois sociales parce qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations de présence dans certains bureaux alors qu'ils étaient en train de combattre le feu, les méga-feux, en Australie. Donc on émerge des figures nouvelles, hein, dans le rapport au feu et dans la catastrophe. De la même manière, émergent des figures symboliques des animaux et évidemment, ça a été dit, hein, et le koala qui devient ce symbole à la fois de l'activité humaine et de l'impact, du potentiel écocide, hein, de l'impact qui va représenter pas seulement les koalas, mais les chiffres annoncent entre 500 millions et 1 milliard d'animaux qui auraient péri à cause de ce monstre, hein, de ces méga-feux.
L'une des victimes du feu également, Joël Zask, c'est le paysage. On imagine celui-ci dévasté en Australie comme partout où il y a eu des feux, en Californie, au Canada ou bien en Catalogne.
Oui. Alors effectivement, d'ailleurs c'était le point de départ de mon étude, c'est que la perte du paysage produit une détresse très très particulière. Souvent, bah, évidemment, ces feux sont adressés de manière plutôt quantitative. On cite toutes sortes de chiffres, mais qualitativement, personnellement, existentiellement, ce feu produit vraiment une espèce d'effondrement psychologique. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une arme de guerre tout à fait redoutable. En détruisant le paysage et toute la civilisation, tout le passé de quelqu'un, on l'abat psychologiquement. Et je crois que cet abattement psychologique est très présent lorsqu'on écoute les victimes du feu. C'était le cas aussi à Paradise. Il y a des groupes de parole qui se sont constitués avec des aides psychologiques pour tous ceux qui ont vécu le feu, même s'ils ne sont pas morts, évidemment. Ils ont perdu quelque chose d'eux-mêmes. C'est vraiment une partie de leur âme qui est restée dans le feu. Et cet aspect doit peut-être aussi nous servir de tremplin pour réaliser l'urgence qu'il y a à agir afin d'éviter que les feux nous atteignent. Parce que ce qui est quand même frappant aussi avec ces méga-feux, c'est que justement, d'une part, ils sont inextinguibles. Mmh. On ne peut pas les contrôler. Hein. Enfin, les pompiers ont un autre rôle à jouer qu'éteindre les flammes aujourd'hui, puisqu'ils n'y arrivent pas. Et par ailleurs... Comment dire, ce sont aussi des feux qui qui détruisent nos croyances dans l'avenir, d'une certaine façon. C'est-à-dire qui invalident nos projections dans le futur. Et par conséquent, et je voudrais aussi dire que ce sont des feux qui atteignent les gens du Nord, les pays de l'OCDE, justement. La catastrophe climatique qu'on réservait ou qu'on croyait pouvoir réserver aux pays du Sud, des pays les moins organisés, prétendument, sont en réalité plutôt moins touchés par les méga-feux que les pays du Nord. Donc là, il y a à réaliser... à quel point ces feux nous guettent d'une certaine façon et justement à influer à la fois sur notre vision dominatrice de la nature afin de la modifier et sur notre vision préservationniste de la nature afin également de la modifier. Et ceci afin de sauver nos paysages et notre relation au paysage qui fait je dirais, le fondement de notre civilisation, de notre rapport au passé, de notre vie présente et de tout ce qui, dans le passé, dans le présent, sert de tremplin pour se projeter vers l'avenir. Une fois que le feu est passé, il ne reste rien. Contrairement peut-être aussi aux autres catastrophes, le feu efface votre présence sur la Terre. Et ce qu'on appelle la désolation dans la Bible, c'est ce, disons, ce territoire qui a été vécu, qui a porté des gens plein de joie, plein d'espoir, plein de créativité, plein de science aussi, et qui disparaît, en fait, qui est totalement supprimé, jusque, je dirais, à la souche des grands arbres, ce qui est le cas aujourd'hui en Provence. Il y a des coins autour de Marseille où les feux ont consumé jusqu'aux racines et aux souches des très grands arbres.
Il y a des lieux, effectivement, défigurés. Joël Zask, Fabrice Argounès, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Le titre du Figaro, c'est la catastrophe sans fin pour l'Australie. Les pompiers sont démunis parce qu'on ne peut pas éteindre ce genre de feu. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On attend que le feu ait tout consumé? On fait des barrières anti-feu?
Alors les choix australiens ils sont évidemment très difficiles, ça a été dit. Et il y a notamment l'attente par exemple des températures, de la baisse des températures, potentiellement de précipitations.
Ce qui ne va pas arriver ce week-end.
Ce qui ne devrait pas arriver ce week-end malheureusement. Et c'est des prévisions qui ont, vous avez vu sûrement, hein, des prévisions qui vont faire passer de 5 à 6, à 8, à 9, à 10 millions d'hectares. C'est-à-dire 10 millions d'hectares c'est l'équivalent du Portugal. Hein. Ce sont des chiffres qui vont bien au-delà des exemples que l'on donne de quelques États américains. Et c'est la difficulté évidemment de penser la gestion de la catastrophe, mais plutôt déjà de se projeter dans l'après-catastrophe. C'est-à-dire concrètement,
si celle-ci est arrêtable, si on peut donc mettre un terme à cela, et combien de temps ça peut prendre? Est-ce que vous avez
Tout simplement, en fait, si on prend le calendrier australien de la saison sèche, potentiellement, on peut encore avoir 3 mois, 4 mois avec des feux. Alors, toujours pareil, on ne va pas faire de la prospective, mais avec des feux qui peuvent rester des feux extrêmement importants durant des semaines et des semaines, et donc affecter encore plus d'hectares, et potentiellement toucher, parce que ça a été dit pour l'exemple de Sydney, mais par exemple, la capitale fédérale Canberra, a également toute une couronne de forêts autour d'elle qui commence à être attaquée et potentiellement qui pourrait faire évacuer des territoires anti-australiens et toucher non pas 50, 100 000 habitants, mais peut-être 500 000 à 1 million. Finalement, on parle de cas très particuliers qui ne sont pas encore la réalité des événements en Australie.
Fabrice Argounès, vous restez avec nous ainsi que Joël Zask. Joël Zask, Quand la forêt brûle, votre livre aux éditions Premier Parallèle. Fabrice Argounès, dictionnaire critique de l'Anthropocène. Je vous présente mes 3 camarades qui viennent prolonger cette émission. Hervé Gardette, vous allez continuer d'évoquer ces incendies dans votre transition avec les koalas.
Oui, faut-il à tout prix sauver les koalas?
Et puis... également Mathilde Serrel, vous, de quoi allez-vous nous parler dans quelques instants?
Aussi des incendies avec, elle n'est pas un koala, Marguerite Duras.
Et enfin, Aurélien Bélanger.
Chaminou est-il le nouveau Skywalker?
On se retrouve dans quelques instants.